Cette histoire, elle commence, je dirais, par un ensemble d'envies individuelles qui sont devenues une envie collective.
Je dirais politiquement, ça vient plutôt d'un sentiment de révolte par rapport au monde dans lequel on évolue.
C'est vrai que c'est un lieu de vie expérimentale dans un monde qui est en train d'évoluer et en prenant en compte les différentes dimensions sociales, environnementales.
C'est l'envie de faire mieux, l'envie de faire quelque chose de communautaire, l'envie de faire quelque chose d'égalitaire et l'envie de faire quelque chose de créatif, d'amusant, dans lequel tu peux essayer des trucs.
Ouais, moi, je crois que c'est juste mon projet de vie. Et c'est plutôt plus venir voir à quoi ça ressemble pour se faire une idée.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Sarah Lefebvre.
Commun, commune, épisode 1.
Bonjour à tous. Au départ, il y a la verte campagne anglaise. Des paysans du Moyen-Âge qui récoltent bois de chauffe et produits de la cueillette. Des vaches et des moutons qui pâturent librement sur des terrains sans enclos, appelés commons ou communs. Des règles d'usage garantissaient alors les droits de chacun, tout en évitant la surexploitation. Et puis, dès le XVIIe siècle, une série de lois vient mettre fin à cette gestion communautaire des sols et des ressources, édifiant barrières et enclos au nom de l'efficacité économique et de la propriété privée. Depuis, cette histoire se répète partout, à une époque où seul le marché serait à même de gérer nos ressources. Exhumée dans les années 90 par la politologue américaine Elinor Ostrom, cette notion de commun est devenue le socle théorique et politique de tous ceux qui, face à la crise climatique, sociale, étatique et économique, n'ont pas dit leur dernier mot. Parce qu'il y a encore ce mot commun, un bien commun, un sens commun, un élan des droits et des lieux, bien sûr. C'est ce que nous allons voir dès cette semaine avec Sarah Lefebvre, partie en voyage en France et en Belgique, à la découverte de lieux communautaires et solidaires, là où se conjugue au présent le fameux monde d'après dont on a tant parlé depuis le début de la pandémie. Commun, commune, c'est une série en 3 épisodes. Première étape, premier épisode au Moulin Bleu, dans le centre de la France, parmi les grandes plaines céréalières de la Beauce.
Au Moulin Bleu, on met beaucoup de choses en commun. On a 13 hectares de terrain, une longère d'environ 800 mètres carrés, un grand hangar et le moulin. Ce qui nous a plu, c'était vraiment le fait qu'on pouvait un peu tout imaginer dedans. On est quand même à 2 heures de Paris en vélo-train. Il y a une voie vélo, enfin une petite départementale qu'on peut prendre. Donc ça remplissait pas mal de critères.
Aller en direction de Saint-Jean-Froidmantel?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, ok.
Désolé.
Pas de problème, merci.
Merci. On a envie d'avoir de l'espace sur lequel on puisse se projeter pendant des années, sans forcément de limites. Comment est-ce qu'on se positionne dans la société actuelle? Quel pourrait être notre rôle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour participer à créer la société dont on a envie?
Saint-Jean-Froidmantel,
oui.
C'est tout droit.
Ouais, donc vous pensez que stratégiquement, pour trouver une voiture qui y va, il faut qu'on se mette là et qu'on voit...
Voilà. Bon, faut pas rêver.
Et donc ce moulin a vraiment tapé dans l'œil d'un certain nombre de personnes. Il a aussi fait peur à un certain nombre de personnes. Et donc à ce moment-là, le groupe s'est scindé entre des personnes qui n'avaient finalement pas très envie d'investir dans ce lieu-là, à ce moment-là, dans leur vie, ça correspondait pas tout à fait. Et puis des gens qui, eux, avaient vraiment envie de monter ce projet.
On a fixé la date de signature le 11 mars. On a signé et le week-end d'après, c'était le confinement.
Une petite voiture bleue. Ah oui.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Vous mettez ça dans la malle, s'il vous plaît.
Il y a un peu de place.
Ah oui, parce qu'il faut savoir l'ouvrir, celle-là.
Oui, ok. Ah, super.
Non, ça va y aller.
Oui.
Ça va y aller. n'importe quoi. Deux.
Pour refaire un toit à l'entrée du 34 rue Vernouillet à Saint-Jean-Froidmantel. Bonjour.
Salut.
On est au Moulin Bleu, c'est ça?
Il reste encore 6 mètres.
Et vous, vous refaites un toit?
On essaie. Comme si. Peut-être qu'un jour on aura fini. Avant l'hiver.
Et c'est quoi ce bâtiment? C'est l'accueil?
C'est un garage, ouais.
Bah attends, bah je descends.
Ouais.
Je suis là. Bienvenue. Une toute petite présentation du lieu. En gros, il y a 4 grands bâtiments ici. Il y a cette maison-là, c'est ce qu'on appelle la longère, c'est là où on habite et où on loge enfin, les gens de passage, tout ça. Là-bas, il y a le moulin et le silo, qui sont les bâtiments qu'on est en train de retaper. Et ensuite, là, le hangar, les garages, tous les espaces plutôt de travail. Là, il y a la maison principale dans laquelle il y a la plupart des chambres et puis la cuisine collective et tout ça. Et là, il y a d'autres gîtes où il y a plutôt des habitants qui logent.
Il y a combien de chambres? C'est immense. En fait, il y a la maison, le gîte principal, le gîte rose, le gîte pignon, le gîte Alain.
Ouais. Tu vois, par exemple, toi, tu es là.
Dans la mezza du gîte rose.
Dans la mezzanine du gîte rose. C'est notre tableau d'occupation des chambres. Donc, on a mis toutes les chambres qui étaient dans la maison. Et on s'inscrit pour indiquer, en gros, quand ces chambres sont occupées. Le principe, c'est que les gens qui sont là à long terme ont une chambre qui est la leur et qui... Voilà, globalement, elle restera la leur aussi longtemps qu'ils auront envie de rester là. Mais il y a des personnes qui sont là plus ponctuellement. Donc, il y a des chambres qui sont occupées plus ponctuellement. Du coup, il y a combien de chambres?
Il y en a 18, plus les clics-clacs qui sont en fait dans des salons.
Ouais.
Donc, il y a 18 chambres. Et hier, on a compté qu'il y avait 11 salles de bain, ce qui est beaucoup trop pour nous, en fait. On ne sait pas trop pourquoi les anciens propriétaires ont fait ça.
Du coup, vous avez eu beaucoup de visites cet été?
Tout le temps. On a fait des semaines de chantier collectif. Donc, on a invité des gens à venir bricoler ici. La première semaine où on a fait ça, on était 50. La deuxième, on était une trentaine. On a eu une semaine porte ouverte où on était une cinquantaine, pareil, pendant la semaine. Enfin, pas toute la semaine, mais le dernier week-end, on était une cinquantaine. Et puis après, évidemment, il y a tous nos amis, familles qui entendent parler du projet depuis 2 ans, qui ont envie de venir. Et donc, ils sont beaucoup venus pendant l'été, puisque c'était le moment où les gens sont dispo. Et là, ça s'est bien calmé. Mais bon, il y a encore du passage.
Et est-ce que dans vos rêves les plus fous, au départ, cette maison-là, enfin ce moulin bleu, c'était avant tout aussi un endroit où vous accueillez les gens, à la fois vos proches, mais aussi des inconnus, comme moi, comme d'autres qui sont là en ce moment?
Au tout début du projet, il y a 2 ans, quand les premières maisons ont été visitées, c'était pas du tout des endroits de cette taille-là. Et la dimension d'accueil n'était pas aussi importante. Et en fait, quand les premières personnes qui sont tombées sur le moulin l'ont vu et l'ont visité, tout de suite, ils ont pensé à tout ce qu'on pouvait y faire et tout l'accueil qu'on pouvait y faire. À la fois accueillir des gens qui ont envie de savoir comment vivre, mais aussi accueillir des gens qui ont besoin d'espace, les associations du village qui ont besoin d'une salle de temps en temps, les collectifs qui ont besoin de faire leur réunion annuelle et qui cherchent un lieu, tout ça.
Donc là, du coup, il y a ce système de semaine rouge où vous êtes entre vous, et une fois par mois où là, vous êtes vraiment ouvert à l'accueil, au chantier participatif.
La fréquence n'est pas du tout définie parce qu'en fait, ça fait 6 mois qu'on est là et on ne sait pas, on teste. Est-ce qu'une semaine verte tous les mois, c'est suffisant ou trop ou on essaye de voir. Et pour ce qui est des semaines rouges, c'est pas tant pour avancer sur les travaux que pour se retrouver entre nous et avoir le temps de prendre soin de notre collectif aussi, de notre groupe, de nos relations. Si on veut réussir à vivre ensemble longtemps, je pense que c'est assez primordial de faire ça.
Thank you.
Alors, notre vision, expérimenter, vivre et transmettre. Nous vivons ensemble pour mettre en pratique un mode de vie résilient et solidaire qui participe au dynamisme et à l'autonomie d'un territoire. Nous expérimentons et apprenons de celles et ceux qui nous précèdent ou coexistent, puis transmettons. Notre projet est politique. Il ne s'arrête pas aux portes de ce que nous construisons. Le lieu que nous habitons est ainsi un lieu de vie, de passage, de transmission et de lutte. Le monde d'abondance que nous avons connu n'a pas d'équivalent dans le futur. Ce qui a permis l'augmentation du niveau de vie au XXe siècle est incompatible avec la survie de l'humanité. Face aux effondrements qui se matérialisent par l'épuisement des ressources, la dislocation du lien social, la crise écologique et le changement climatique, nous agissons. Nous n'avons pas la vérité, mais nous savons que c'est en expérimentant que l'on parvient à trier les bonnes idées des moins bonnes. Un autre modèle est nécessaire, ce lieu existe pour montrer qu'il est possible et enviable. C'est le début de notre charte. Et ensuite, on détaille un petit peu nos valeurs, qui sont donc habiter ensemble en communauté, bâtir la résilience, se sentir bien avec soi et avec le monde.
Ça veut dire quoi, la résilience?
Alors, la résilience, ça a plein de définitions selon le domaine dans lequel on se place. Mais pour nous, la résilience, en gros, c'est la capacité à maintenir les choses qui nous semblent vraiment importantes en tant que personne humaine dans un cadre qui s'effondre, que ce soit un effondrement de la biodiversité, des conditions bioclimatiques dans lesquelles on était depuis quelques siècles, aussi bien que l'effondrement de la société dans laquelle on vit, du lien, de la possibilité de vivre dignement, etc. Et donc pour nous, la résilience, ce serait réussir à maintenir ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire en gros vivre comme des êtres humains solidaires et respectueux du monde dans lequel on vit.
L'enceinte du jardin, parce qu'il est entouré d'une petite clôture, elle fait 1000 mètres carrés. Donc c'est pas loin de la maison, c'est pas loin du Loir, donc le sol est bon. Après c'était un enclos qui était utilisé pour mettre des chevaux. Donc on a dû décompacter le sol et faire des plates-bandes. Et on a planté dedans 450 mètres carrés. C'est la bonne surface, je pense, pour un groupe de 10-15. Je m'appelle Florent et je me suis installé ici le jour de l'achat. Donc le 11 mars, je suis arrivé ici avec un tout petit sac et au final, je suis resté toute la durée du confinement et jusqu'à aujourd'hui. Je suis botaniste, enfin j'ai fait une formation scientifique à la recherche et l'enseignement en biologie et écologie végétale. J'ai démarré une thèse sur la pollinisation des plantes en milieu aride en Afrique du Sud, que j'ai pas encore fini. Et parce que maintenant, je m'intéresse plus à des choses concrètes comme la restauration des habitats, la restauration écologique et juste le fait de faire pousser les plantes moi-même. Donc c'est ce que j'aimerais potentiellement faire ici au Moulin Bleu. Voilà ce que je fais ici.
Il y avait tout à faire en fait. Là, c'était un champ complètement vide, il n'y avait rien. Ouais. Et là, 5 mois plus tard, on est au début de l'automne, au centre de l'allée principale, et de part et d'autre, vous avez installé plein de buttes. Et il y a des tomates à foison, des choux. Tout ça, c'était pendant le confinement, en fait. Vous êtes arrivé là la veille du discours du président de la République française qui disait « ça va être la guerre ». Et vous aviez ce terrain-là sur lequel vous pouviez tout faire.
J'ai toujours voulu avoir une grande surface pour faire un potager, donc là, j'avais beaucoup d'espace. On était plusieurs à faire ça. Hein. Il y avait Montse, et Flore et tous les gens qui avaient envie de participer. On a eu pas mal d'aide au printemps. Après, on a eu un mois d'avril, mai, juin hyper chaud. Enfin, tout a bien démarré. On a eu plein de courgettes. On a eu plein de pommes de terre. Enfin, on a juste planté 200 plants. On a eu 200 kilos. On a eu beaucoup de courges. 350 pour l'instant ont été récoltées. On a eu.
Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces courges?
Si on les stocke, en fait, elles peuvent être mangées jusqu'au mois de mars-avril 2021. Donc on aura des courges pour tout l'hiver. En fait, le but, c'est pas d'être autonome ou de vivre en complète autarcie. C'est juste de pouvoir manger des légumes qui sont de bonne qualité, sans traitement, qui viennent juste d'à côté. Et aussi, si on produit des surplus, de pouvoir en donner aux voisins ou faire du troc, mettre des brouettes devant le moulin et les vendre à prix libre avec une petite tirelire. Bon, ça, c'est mon rêve pour l'année prochaine. Non, là, c'est de la coriandre qui s'est semée toute seule. Et il y a du plantain qui pousse aussi, qui est aussi une plante comestible, une plante sauvage comestible. Donc, le but, c'est d'avoir un jardin où aussi on sélectionne ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais les plantes sauvages qui sont intéressantes, qui sont soit comestibles ou soit qui sont en tout cas faciles à gérer.
De réhabiliter les mauvaises herbes.
Ouais, c'est ça, mais il y a plein de plantes sauvages et de plantes qui se développent beaucoup dans les jardins qui sont parfaitement, qui sont pas un problème, qui couvrent le sol et qui sont comestibles. Il y en a juste quelques-unes qui sont un peu plus problématiques, qui sont un peu embêtantes, comme le chien dent ou le liseron, mais à part ça, les autres, elles sont super bonnes.
La future pâte de coin et derrière il y a la compote. Là on va la laisser cuire et ensuite il faut qu'on l'étale sur un plateau et qu'on la laisse sécher pendant quelques jours, quelques semaines.
Prenez le temps de faire ça avant d'habiter au Moulin Bleu, Laure ?
Beaucoup moins. J'avais le temps pendant les vacances. Surtout quand j'étais chez mes parents, on faisait ça un petit peu. Mais la transformation, ça prend énormément de temps et donc c'est pas du tout un truc qui est compatible avec une vie citadine et avec un métier qui prend beaucoup de temps. Et puis en plus, si t'as pas une source de fruits type habiter à la campagne ou en avoir soi-même ou avoir des voisins qui en ont, je pense que c'est difficile de pouvoir faire ça.
Et c'était quoi ta vie d'avant alors ?
Moi je suis prof, donc cette année je suis en disponibilité, mais ouais, prof de SVT au collège et en région parisienne, donc avec moins d'espace. Mais l'objectif, enfin ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir être mutée dans le coin et donc être prof, si possible pas à temps plein, et habiter ici le reste du temps.
Alors, c'est les blettes du jardin avec la sauce tomate et les pommes de terre qu'il faut qu'on fasse parce qu'elles sont en train de germer.
C'est le week-end le plus vite depuis le début, quasiment. Après, ça fait que 6 mois qu'on est là. On était 3 avant-hier. On était 3 pour le déjeuner.
Sur les 15...
Comment vous vous appelez ?
Marie.
Non, c'est Rémi.
Evelyne.
Parce qu'on est
un peu en décalage.
Ouais. On est moins 5 à répondre aux mails, du coup.
Mais on n'a pas envoyé de mails. On vient incognito.
Alors vous êtes des temporaires ou vous êtes des historiques ?
Moi, j'ai pas participé. Je suis associé. Donc je fais partie des 17 associés du Moulin Bleu, mais j'ai pas participé à la recherche du lieu. Ni à toute la partie administrative, je suis arrivé le jour des signatures pour démarrer le jardin.
Ah ouais,
Tout est en main, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et
Flore, c'est une associée qui a participé au processus de recherche et d'achat. Ouais. Et Laure, elle est un peu comme moi. Et Maxime fait partie aussi du noyau qui travaille dessus depuis 2 ans.
Et le groupe était constitué avant ?
Mais en fait, ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu la grosse... c'est pour ça que ça a été très vite. C'est qu'en fait, ça faisait 5 ans que la plupart des gens habitaient déjà ensemble.
5 ans ?
À Bourg-la-Reine. Ouais.
D'accord.
En coloc, à 14. Dans une maison à Bourg-la-Reine.
Dans une maison bien serrée.
Et donc, du coup, c'est vrai que ça... Enfin, au niveau de la constitution du groupe, de son fonctionnement, il y avait déjà beaucoup de bases qui étaient posées avec la coloc à Bourg-la-Reine. Et ce projet de partir vivre à la campagne, il était présent chez pas mal de personnes. Il y a 2 ans, il y a eu on a posé les bases de quel fonctionnement on voulait. Et après, ouais, ça a mis. On a fait 6 mois où on faisait des petits groupes
qui allait visiter sur un week-end dans une région. On faisait plusieurs visites et puis et ça a été assez vite après. Ouais. En fait, par rapport aux autres lieux qu'on avait visités, ce lieu-là, juste, il y avait tellement de choses possibles. Enfin, on n'était plus contraints par le foncier. Il y avait à peu près toutes les activités qu'on voulait faire qui rentraient sans problème. Et c'était la première fois. Enfin, il y avait beaucoup à faire, mais il y avait tout qui était prêt, quoi. C'était accessible en transport en commun. Le chemin depuis la gare de Cloix est super agréable en vélo. Donc ça a beaucoup plu. Le petit groupe qui avait été mandaté sur ces visites-là est revenu avec des étoiles dans les yeux en disant « Ok, je crois qu'on a trouvé un lieu qui pourrait bien marcher. » Et là, ça a été un peu le branle-bas de combat pour tous venir visiter. Donc, on était 19. Donc, je crois qu'on a fait 3 visites pour que tout le monde puisse visiter. Et voilà, après, du coup, on est rentré dans la démarche de « Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ?» qui n'est pas un moment facile pour les groupes.
C'est vachement angoissant de se dire on se lance, on se lance pas, pourquoi, waouh.
Ce qui est important, c'est de réussir à créer un espace qui est modulable pour pouvoir suivre un peu justement l'évolution de ce qu'on voudra. Parce qu'on est encore jeune, on n'a pas d'enfants, mais certains pensent quand même à ça. Et du coup, comment est-ce qu'on évolue avec le lieu et avec les situations de chacun?
Okay. Vous recherchez quoi?
Du bâti déjà. On ne veut pas se mettre à la construction parce qu'on connaît un groupe qui s'est lancé dans la construction et c'est très très difficile, quoi. Et puis, nous actuellement, nous sommes 4. Mais on veut agrandir à entre 8 et 10.
Pour pas vieillir seul. Quoi?
Non, mais...
C'est ça aussi. Moi, j'ai 65 ans.
64. Enfin, nous, notre désir n'est pas d'avoir chacun une chambre seulement, c'est d'avoir un lieu plus grand, mais de pouvoir partager des lieux et des moments et de faire des choses ensemble. On se rend compte que la solitude, enfin, c'est le grand mot de notre société, quoi. Et puis aussi de ne pas spéculer foncièrement.
Et si on pouvait trouver des foyers de jeunes?
L'intergénérationnel, nous...
L'intergénérationnel, ça nous plairait bien. Même des mamans solo. C'est vrai que c'est... Voilà, on est ouvert à toutes...
Nous, ce qu'on aimerait aussi, ce qu'on souhaiterait vivement, c'est qu'il y ait une mixité sociale. Justement, que des gens puissent venir habiter, être locataires et avoir le même pouvoir que ceux qui sont propriétaires.
Et moi, je m'appelle Montse, ou Montserrat, et je suis une habitante du Moulin depuis quelques mois. On est tous associés, on a tous eu la volonté de créer ce projet, que ça soit le soutenir d'une manière ou d'une autre, ou de venir y habiter. Mais en tout cas, on est un collectif de 16, et après, il y a aussi plusieurs personnes qui tournent autour du projet. On aimerait ne pas rester trop entre nous et enfin, essayer de un peu d'éclater notre bulle justement d'écolos qui viennent de Paris ou en tout cas qui ont vécu les dernières années à Paris et de par exemple intégrer des personnes du village ou des villes d'à côté ou d'autres personnes différentes de nous.
Parce que vous, c'est qui?
Une bande de jeunes qui a entre 25 et 35 ans. On a les mêmes envies d'expérimenter un autre mode de vie ou en tout cas de pousser le nôtre un peu plus loin. Et donc ça va de gestion de projet associatif, il y a masseuse, enseignant, enseignante, consultant, il y a des étudiants aussi. Là, pour quelques mois, il y a un menuisier qui va nous rejoindre. Voilà, différents profils.
Le gros dénominateur commun, c'est l'écologie.
Et le fait aussi de vivre ensemble, de montrer que c'est possible de vivre en collectif. Il y a énormément de projets qu'on ne pourrait pas développer tout seul. Et donc, il y a la force du groupe. Et avec le fait qu'on est content de partager des moments ensemble et qu'on se recrée une petite famille qui ne ressemble pas trop au modèle... normal de la société actuelle.
Est-ce que vous êtes une communauté? Vous parlez de communauté.
Si être une communauté, c'est vivre à plusieurs au même endroit, construire des projets ensemble, vivre ensemble, mais tout en étant dans des, quand même des espaces séparés, avec chacun son espace. Oui, on peut être considéré comme une communauté, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce mot est tellement utilisé par plein de personnes et peut signifier des choses différentes. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans le mot communauté, c'est que ça, pour moi, ça reflète un peu la force du groupe qu'on a et la confiance qu'on a dans les uns et les autres et dans le groupe, dans son ensemble.
Dans communauté, il y a commun. Qu'est-ce que vous mettez en commun au Moulin Bleu ?
Au Moulin Bleu, on met beaucoup de choses en commun. Je dirais, en fait, pour moi, presque tout est commun. Dans le sens, le lieu, on l'a acheté ensemble. La nourriture, les meubles aussi sont communs. On contribue à prix libre ou sur donation, avec une estimation de 10 euros par jour. Mais après, donc ça c'est aussi pour les gens qui de passage, mais ça reste à prix libre, donc il y en a qui contribuent beaucoup plus, il y en a qui contribuent beaucoup moins. Ça permet aussi pour ceux qui ont des rentrées d'argent fluctuantes de varier en fonction des mois. L'avantage d'être en groupe et de notre fonctionnement, c'est que il y en a qui font du télétravail, il y en a qui travaillent à temps plein, qui font des heures sup, qui travaillent beaucoup, et il y en a d'autres qui ont décidé de travailler moins par choix pour prendre du temps pour eux. Et dans notre modèle, c'est possible de faire ça parce qu'on ne va pas contribuer à la même hauteur au projet, enfin financièrement. On contribue en fonction de ce qu'on gagne et au final, on est à l'équilibre.
Et tout de suite sur RFI, place à l'Ojo.
Permettez, majesté, cet or fut dérobé. Un pays blessé.
Voyages sont sur RFI.
Et vous êtes pas là ce week-end?
Enfin, je suis pas là.
Non plus. Ok. Pour l'après, chauffage. Par cal.
En gros, la température extérieure ne va plus dépasser 16 a priori. Le jour et la nuit, ça descend pas très bas, ça a l'air de descendre à 8. Donc on a un radiateur d'appoint qui est mis dans l'espace de travail. Ce qui permet d'avoir une température agréable, je pense, si on ferme le rideau. Après, il y avait d'autres stratégies d'équipement.
J'ai rapporté normalement 30 mètres carrés de film de survitrage qui permet de faire des faux double vitrages. Et l'idée, c'était d'équiper tout le rez-de-chaussée de la maison en pliant simple vitrage. Même si les gens veulent s'y coller, ça va tomber sur la table à monter.
Si loin, si proche, au Moulin Bleu, alors cette fois de la réunion hebdomadaire qui se tient chaque dimanche non loin de la cheminée, dans le grand salon. C'est l'occasion de se retrouver et de faire le point sur les chantiers en cours, innombrables forcément quand on restaure une vieille bâtisse de 1500 m² sur un terrain de 13 hectares. Parfois, souvent même, il faut aussi jouer les guides. On retrouve Florent avec son petit groupe de visiteuses.
On n'est pas monté dans le moulin, nous.
Ah,
moi,
Bon, toi, tu connais parce voilà. que d'avant, toi.
Voilà. T'es pas remonté depuis... Ah, attends, on va montrer ce qu'on a fait déjà.
Ouais. J'ai vu la salle en bas, c'est tout.
Ah oui, t'as vu la
bête. En hauteur, non.
Oh, je sais pas. Non, mais il y a plein de choses ici, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est des anciennes machines de la minoterie. Donc le moulin, c'était une minoterie, une production de farine jusqu'en 1983. Ensuite, c'est devenu privé. Il y a eu deux propriétaires différents. À chaque fois, c'était une ou deux personnes. Et voilà, il reste des machines ici. C'est un bâtiment industriel et ça reste dangereux. Il y a des trous dans le plancher.
Oui, donc, oui il y a certains étages. Oh, ben on vit dangereusement ici.
Ça, c'est la salle des fêtes qu'on a aménagée, on a repeint certains lieux. Donc là, une cuisine qu'on a aménagée avec que des meubles qu'on a récupérés dans le coin. Ça, ça vient d'une ferme en haut de la colline, là, chez Jean-Claude. On a amené l'électricité et l'eau. Bon, c'est sommaire, mais il y a des groupes, on a réussi à faire à manger jusqu'à 88 personnes au mois d'août, ici.
Et la date de construction
du bâtiment, apparemment, au moins, enfin, 19e siècle.
Donc c'était une époque au 19e siècle où toute la plaine de la Beauce était entièrement agricole et principalement du blé avec fabrication de farine.
Oui. Oui, c'était déjà une région à céréales. Après, à plus petite échelle, avec des plus petites fermes et beaucoup plus de haies. Donc c'est depuis les années 60 où il y a des super exploitations de plus de 100 hectares. Mais oui, oui, ça a toujours été une zone de céréaliculture. On va monter, du coup. On va prendre cet élément dangereux, il y a un escalier, il y a des trous.
Oui.
Et
les poutres magnifiques.
Elles sont belles, hein.
Ah ouais, d'accord.
Elle a vu sur le Loir, elle est super belle. Oui.
Côté là.
Moi, je vais mettre mon bureau là.
Qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit le Loir, les arbres.
Ah, mais c'est le Loir.
On a le bruit du Loir. On a...
Ah oui, on est juste après le vannage, là.
C'est super beau.
Merci.
On pourrait se promener.
C'est vif, quoi.
J'ai un repère là pour connaître le niveau du Loir, enfin le débit, tu vois. Si tu regardes le niveau d'eau à droite, on voit que le débit augmente enfin après la sécheresse de l'été. On est arrivé à un niveau où là on voyait les cailloux quasiment. On est descendu à 1 mètre cube par seconde sur le Loir ici, alors que la moyenne estivale apparemment c'est plus 3 à 5 mètres cubes. Tu vois. Donc c'est quand même assez catastrophique.
Ici, dans ce contexte-là, avec ce barrage que vous avez, qui est un peu cassé, vous avez aussi, à terme, une responsabilité qui est plus large que votre propre moulin, avec cette gestion des eaux. Comment ça se passe?
Bah ouais, apparemment, l'édifice ici, il existe depuis quasi 1000 ans, hein, parce que ça serait depuis le 11e ou 12e siècle qu'il y a un barrage ici sur le Loir, donc les habitants en amont, ils sont adaptés à un niveau haut du Loir, même l'été, quand le débit est très faible. Donc depuis 15 ans, ouais, les vannages ils sont un peu cassés et on sait que ça affecte le niveau des nappes phréatiques en amont, que ça affecte la pêche. Donc ouais, nous on aimerait pouvoir rénover les vannages pour produire de l'hydroélectricité et rehausser le niveau d'eau du Loir au même niveau qu'il était pendant plusieurs siècles, quoi. On est en zone inondable, on connaissait les risques. Après, nous, on était attirés par le milieu. Enfin, moi, je trouve ça génial d'être en bord de rivière. Il y a un gros potentiel de restauration écologique. Et puis, ouais, c'est comme un petit oasis au milieu de la Beauce et du Perche. C'est quand même, pour moi, un des plus beaux paysages de la région. D'être dans le creux d'une vallée où il y a relativement beaucoup de forêts, c'est assez vert.
Et c'est quoi le rêve pour toi ici?
Le rêve. Ouais, recréer un endroit plus riche, aider à la restauration de l'écosystème. Pour l'instant, on a fait un jardin et on réfléchit à toutes les plantations d'arbres de cet hiver, notamment d'une forêt-jardin qui fera 4000 m² et qui fera une enceinte autour du moulin où les arbres seraient des arbres fruitiers ou des arbres à noix. Donc le moulin, enfin les bâtiments du moulin, d'un côté il y a la rivière et de l'autre côté on aimerait que ce soit un habitat semi-ouvert, donc avec des arbres mais aussi avec des zones au soleil, qui soit un lieu de vie avec des tonnelles et des bancs et des chaises et une petite mare pour se poser l'été, mais aussi un lieu productif.
Parmi les derniers exemples communautaires, en tout cas de vie collective, d'habitat collectif qu'on connaît, il y a ceux qui ont succédé à mai 68, donc à partir du début des années 70, où beaucoup de citadins partent des villes pour un retour à la terre. Comment, vis-à-vis de ce contexte-là historique, vous vous inscrivez, Laure ?
Bah, c'est sûr qu'on s'inspire des expériences qui ont eu lieu dans cette période-là. Une des œuvres qui nous inspire un peu toutes et tous ici, c'est la bande dessinée La Communauté, qui parle justement d'une communauté qui achète d'ailleurs un moulin, enfin une minoterie, dans les années 70. On a essayé de parler des questions financières qui peuvent fragiliser le projet, des rapports humains. Moi, j'ai l'impression qu'une différence vraiment importante entre ce projet-là et le nôtre, c'est qu'eux, ils développent beaucoup l'idée de travail-vie entière. Ils parlent de comment est-ce que toutes les activités, en fait, sont liées... Enfin, la vie est faite de plein d'activités qui sont toutes nécessaires. Et ils conservent le mot travail, mais en fait, on a l'impression que toutes leurs activités, que ce soit préparer la cuisine, s'occuper du jardin, avoir des activités manuelles, de choses qu'ils vont vendre pour gagner de l'argent, tout ça fait partie d'un ensemble d'activités qui constituent leur vie. Et tout se passe dans la minoterie. Leur vie familiale, leur vie sociale, leur vie, leur travail... Et ici, nous, on n'a pas du tout cette optique d'être tous, tout le temps, au moulin. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à chercher du travail et à trouver du travail dans les villes autour. Il y a des personnes qui travaillent partiellement à Paris, qui aimeraient bien peut-être revenir un peu plus dans la région, mais l'idée n'est pas forcément qu'on développe au moulin des activités qui pourraient rémunérer et permettre à tout le monde de vivre.
Et puis avec cette idée de peut-être pas tout mettre en commun. Le travail, en l'occurrence... n'est pas que du commun.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les activités qui sont faites sur le lieu sont des activités qui ne rémunèrent personne, même s'il y a des gens qui sont très investis dans le potager, très investis dans la rénovation des espaces, très investis dans l'accueil de personnes. Et donc, on est en train de réfléchir en ce moment à comment est-ce qu'on fait pour monter des activités économiques ici. Et une des questions, c'est comment est-ce qu'on pense la répartition des bénéfices, la propriété de la production, si des personnes... produisent des légumes ici sur un terrain qui appartient à tous. Comment sont répartis les bénéfices de la vente de ces légumes ou à qui vont ces légumes? Est-ce que le collectif en a une partie? La question se pose pour des personnes qui viendraient installer des ateliers, par exemple l'atelier bois. Il est dans un espace qui est commun, il y a des machines qui sont communes. Comment est-ce qu'on pense la contribution d'une activité individuelle à un lieu de vie collectif? Donc, c'est des questions qui sont en cours. C'est pas du tout réglé encore. Mais c'est un chantier que je trouve très très intéressant.
Au Moulin Bleu et Maxime et Laure sont sur le toit, toujours, en train de refaire la charpente.
Donc maintenant, un petit peu tous les week-ends, et si possible, avant qu'il fasse trop moche, on essaie de terminer le toit.
Le week-end, parce que toi, Maxime, par exemple, tu fais partie des gens qui ne sont pas là tout le temps au quotidien, tu partages ton temps.
Ouais, moi je fais des allers-retours entre Paris, où j'ai mon travail, et ici. Je fais une partie de mon travail en télétravail, mais je ne suis pas disponible pour grimper sur des toits. Et on est plusieurs à être moins disponibles en semaine, puisque la charpente c'est quelque chose qui se fait quand même assez mal tout seul. Et donc on essaie de bénéficier des volontés des habitants qui sont là plutôt le week-end, ou des visiteurs de passage d'ailleurs, qui peuvent nous filer un coup de main. À vivre ici... plutôt les week-ends ou une semaine sur deux, je pense que c'est à peu près la moitié du groupe.
Et toi, par exemple, le rêve à terme, ce serait vraiment de te poser là tout le temps ?
Je ne sais pas répondre à cette question. Ce n'est pas très surprenant, mais c'est très fatigant de faire des allers-retours, même une fois par semaine, et d'avoir un petit peu de vie en parallèle. Donc ça, je pense que ce n'est pas forcément très durable. Après, j'ai toujours beaucoup d'attaches en région parisienne. C'est quelque chose que je ne compte pas laisser tout de suite. Par contre, j'imagine plus avoir mon activité professionnelle pérenne dans la région et être plutôt sur Paris pour des raisons qui ne sont pas des contraintes professionnelles.
Je suis hyper active dans des projets collectifs, mais là j'ai envie de prendre du temps pour moi. Je m'appelle Astrid, j'ai 32 ans, et là je sais que le moulin c'est un projet que je trouve trop cool, qui sur le papier me plaît beaucoup, mais le lieu me va pas parce que j'ai plus envie de vivre en coloc. Et que là, à court terme, c'est une coloc, même si à moyen terme et à long terme, ça pourra être aussi des unités de vie séparées. Et je vais du coup aller tenter de vivre toute seule. Volonté de voir aussi un peu si, en prenant un peu de la distance par rapport au groupe et au projet, qu'est-ce qui fait que je suis attachée à ce projet-là ? Est-ce que ce sont les gens ? Est-ce que c'est le projet ? Est-ce que finalement le lieu, en vrai, ça va, je peux bien m'y sentir ? Et puis, si toutes ces réponses, c'est non, bah du coup, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et comment est-ce que je le construis et je le trouve, je sais pas. Comme c'est un projet collectif et une vie collective aujourd'hui, si j'ai envie de faire quelque chose dans un champ, en fait, il faut que j'en parle à tout le monde. Il faut que je construise avec tout le monde. Ce qui est très cool, parce que du coup, t'as plus d'idées, t'as plus de bras pour faire les choses, etc. Mais c'est pas mon projet. C'est pas qu'il faut de l'individualisme dans ces projets-là, c'est juste qu'il faut des individualités qui s'accordent correctement pour avancer sereinement sur ces trucs-là. Il y a des personnes qui sont très partantes pour accueillir tout plein de gens, et t'en as d'autres qui sont genre « Ouais, ouais, mais en fait, moi je suis pour qu'on accueille plein de gens, mais là j'ai besoin qu'on s'occupe de mon espace et de m'assurer que mon espace est là. » C'est comme une balance, quoi, et puis il faut que ça s'équilibre pour que ça fonctionne correctement dans le groupe.
Et chacun n'a pas les mêmes ambitions à ce niveau-là.
Chacun n'a pas les mêmes ambitions à ce niveau-là, mais chacun a à cœur, je crois, de faire en sorte que le projet fonctionne.
On a peut-être des valeurs assez communes et une idée un peu commune de ce qu'on voudrait, mais pas forcément les mêmes idées de comment on va y arriver. Globalement, on est assez d'accord pour dire que on voudrait un monde plus juste, sans capitalisme, sans patriarcat, ou plus solidaire et plus écologique. Et c'est vrai que dans le groupe, il y a des gens qui ont des engagements associatifs plutôt écolo, il y a des gens qui ont des engagements plus politiques, sur des questions plus sociales. Je pense aussi qu'il y a une réflexion à avoir sur ce dont on est capable, chacun individuellement. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie pour agir, mobiliser des personnes, mettre en lien des gens, manifester, participer à des actions. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels l'énergie va être plus efficace, utilisée dans la construction d'un autre projet, même s'il est plus local, plus individuel aussi. Et puis c'est peut-être une histoire de période dans la vie aussi, hein. C'est pas forcément... Enfin, moi, je sais que j'ai été super motivée par plein d'actions et plein de manifestations pendant les 2-3 dernières années, et que là, je suis contente de me poser ici et de voir ce qu'il est possible de construire ici. C'est quelque chose qui redémarre. Un des aspects du moulin aussi dont je prends conscience, c'est que on n'est plus du tout... Enfin, moi, je suis plus du tout au cœur de ces mobilisations que j'ai pu suivre d'un peu plus près quand j'étais en région parisienne. Et c'est un truc qui me questionne, de savoir quel est mon pouvoir de transformation en étant ici, dans un projet que je trouve très chouette, qui, pour moi, est plus du domaine de la construction de la société qu'on voudrait que de la lutte contre la société actuelle, même si, en fait, ça va un peu ensemble. Quand j'étais en région parisienne, j'avais l'impression d'être plus active dans la lutte contre le système et d'avoir moins d'impact concret sur la création de ce que je voudrais après. Ici, c'est un peu l'inverse. Et parfois, je me questionne sur l'impact que ça a pour participer à créer la société dont on a envie. La quasi-totalité des gens du groupe ont habité, habitent encore ou ont été proches de la Maison Bleue dans les années, les années passées.
Cette fameuse coloc où il y a plus de 10 personnes qui vivent dans le sud de Paris.
En fait, quand cette coloc s'est créée à Bourg-la-Reine, les propriétaires de la maison qui est louée ont dit « ça ressemble à la Maison Bleue » dans la chanson « C'est une Maison Bleue ». Et donc ce nom est resté finalement un peu, au début un peu par dérision, et puis finalement on s'y est attaché et c'est resté la Maison Bleue.
Adossé à la colline, on vient à pied,
exactement.
On ne peut
pas. Et puis ensuite, on a trouvé un moulin, et du coup là le nom est devenu très naturellement le Moulin Bleu. Et ici c'est le cas, on n'a pas de clé, on ne sait pas où sont les clés.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare. File à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira.
Commun, commune, l'expérience du Moulin Bleu, c'était le premier épisode de cette série de Sarah Lefebvre. Merci à elle pour ce voyage et merci à tous les habitants du Moulin pour leur accueil. Laure Alary, Céline de Velay-Mazurel et Sarah Lefebvre, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de cette série. On prendra la direction de la Belgique. D'ici là, bonne semaine à l'écoute de RFI.
Attendez-moi.